chante avec nous. On y va.
Je fais faire comme une espèce de résumé et pour montrer entre l'espérance humaine et l'espérance surnaturelle, vertu théologale. Ce matin, j'ai laissé entendre que, pas seulement que les jeunes, mais des adultes, parfois des responsables, des hommes d'affaires ou des hommes dans les professions libérales comme médecins. Ça arrive un peu de tous les côtés. L'idée du suicide. Alors, j'ai voulu faire ressortir si le suicide est si répandu, on n'a pas donné la vraie réponse à ce pourquoi du suicide. Et j'ai dit, entre autres, qu'on peut prendre en exemple les jeunes, parce que c'est arrivé à beaucoup de jeunes, dans le Québec en particulier, c'est que les jeunes n'ont pas la foi en Dieu et en ses promesses. Ils ont la foi dans les promesses des hommes. Et ils sont attachés à ce qui est de la terre. C'est-à-dire, les jeunes s'attachent facilement aux personnes. Ils s'attachent facilement aussi à leurs emplois, leur travail ou à leurs amis. Quand l'emploi disparaît, quand les amis s'en vont, quand on perd sa dulce, son amour, quand on perd ses parents, quand on n'a pas la foi, on dit qu'il n'y a plus rien après. Quand on perd le gros lot, on dit qu'il n'y a plus rien après. Parce que dans le cœur de ces hommes ou de ces femmes, ils sont attachés à des biens matériels de la terre. Ça, c'est l'idée là, principale. Quand tout leur est enlevé, ils n'ont plus d'espoir en rien, ils sont tous enlevés. Tout ce à quoi ils aspiraient, ils l'ont perdu. Ça conduit au suicide. Si ils avaient été formés à pratiquer leur foi, et ça vient de l'éducation familiale aussi, ça vient de la société qui est presque athée dans ses rebords et dans son milieu, des gens qui disent sont prêts à pratiquer n'importe quoi, Dieu il n'est pas là, ça conduit à des choses aberrantes comme ça. Parce que fondamentalement, la nature humaine, on tient à vivre. Maintenant, ce matin, quand j'ai parlé de la foi importante, la foi en la parole et en Jésus-Christ, qui est venu nous racheter et qui nous a sauvés par sa passion, ses souffrances, sa mort, sa croix, tout. Il nous a sauvés. Ça fait partie de la foi de croire en cela. Et dans les promesses que Jésus nous a faites d'un ciel qui peut être commencé déjà sur terre. Parce que, on dit, le royaume de Dieu, il est au-dedans de vous. Le royaume de Dieu est joie, paix, justice dans l'Esprit Saint, dit Saint Paul. Ça, c'est des avances que le Saint-Esprit nous fait à nous comme baptisés. Et de croire en la résurrection du Christ. Parce que si nous ne croyons pas à la résurrection du Christ, tout est fini. Pourquoi croire? C'est ça que Saint Paul dit. Donc, cette foi en la parole nous conduit à croire dans les promesses de Jésus-Christ. Et les promesses de Jésus-Christ sont des promesses de biens invisibles qu'on ne voit pas en général. Un bien visible, c'est le baptême. Mais vous ne voyez pas le baptême. Il est marqué en vous. L'Eucharistie qui nous est donné, c'est un bien spirituel. C'est Dieu qui nous est donné. Mais on le voit par la foi en la parole de Dieu. Tous les jeunes et les moins jeunes, puis les hommes d'affaires et les autres, qui ont délaissé complètement la foi ou qui en ont peu l'expérience et la connaissance, sont conduits facilement à ces tentations de s'enlever la vie. Parce qu'ils tiennent à quelque chose de terrestre, matériel. C'est pour ça que ce matin, je vous ai parlé aussi du détachement, du dépouillement des biens terrestres. On peut avoir des biens. Bon Dieu ne défend pas ça, mais il ne veut pas qu'on s'y attache, qu'on y tienne à ce point d'en faire de la maladie. Ça me fait penser à une veuve qui cherchait ses bagues. Elle en a fait une maladie de ne pas les trouver. Une maladie. Ce n'est pas normal. Pour un chrétien, une chrétienne, on doit se servir des choses comme ne nous appartenant pas. En fait, dans la vie religieuse, ce qui arrive et qui est comme une préfiguration un peu du royaume de Dieu, par avance, vu, même si ce n'est pas parfaitement, c'est que le religieux fait le sacrifice de tous ses biens. Il fait le sacrifice aussi de la femme ou de l'homme selon le cas. C'est un bien, ça aussi. Il fait le sacrifice de sa volonté propre. Il obéit à un autre. Il veut l'obéissance à un autre. Alors, vous avez ici, par avance, un dépouillement et un détachement qui est fait pour accéder au royaume. C'est une vocation, mais le baptisé aussi, il lui est demandé de devenir un homme nouveau, une femme nouvelle dans le Christ. Alors, il faut se nourrir de la parole, s'en instruire. Il faut aussi fréquenter les sacrements qui sont comme des arts de la vie éternelle, par avance. Quand je vais au sacrement de la réconciliation, je suis purifié toute mon âme. Je viens de me faire donner la vie en abondance pour grandir dans le Christ Jésus. Il en est pareil pour l'Eucharistie. Ce sont, par avance, quand on vit dans la foi, des moyens qui nous conduisent à l'espérance dans les biens de l'au-delà, dans le royaume de Dieu, dans la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de te connaître, toi et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. De te connaître, c'est-à-dire de rentrer dans ton intimité, dans ton union. Et quand on parle de connaissance, d'union, dans les Écritures, on vient parler de ne plus faire que. Mais dans la vie normale, mari et femme, ils s'unissent pour la vie, ils ne font plus que. Et ce sont des exemples, comme des préfigurations par avance, de ce que ce doit être notre union avec notre Seigneur, d'esprit à esprit. Dieu est esprit et nous devons en arriver à nous unir pour ne faire qu'un seul esprit avec lui. Donc, les promesses qui nous sont faites, c'est là-dessus qu'on doit s'appuyer pour garder notre cœur en vie et notre espérance en Dieu. Mais si on n'a pas ça, ça conduit tôt ou tard à des espèces d'aberrations comme le suicide. Mais à la télévision, à chaque fois qu'ils n'ont parlé, jamais j'ai vu des gens qui ont été capables de dire « Voici pourquoi c'est là. » C'est curieux. Puis, vous savez, c'est sur une grande échelle du monde intelligent pourtant. Mais ils font attention, ils cherchent toutes sortes de moyens pour que ça arrête. Mais ça continue quand même. C'est pour vous faire comprendre qu'il y a un problème dans la société. C'est que le sens de Dieu, il a pris le bord comme le sens du péché. Alors, la place où il n'y a pas de sens, eh bien, on est prêt à s'en aller. Puis là, on se promet pas qu'on va avoir une vie éternelle. On ne parle même pas de ça. Est-ce que ça peut répondre?
Oui.
Est-ce que ça, c'est assez clair?
Oui.
Bon, OK. Je veux essayer de vous parler de l'agir du Saint-Esprit et de l'explosion de ses dons. Ce n'est pas une chose facile à parler, parce que c'est du domaine de la foi. Mais dans l'explosion des dons et de son agir de l'Esprit-Saint, vous avez un peu, comme par avance, l'idée de Dieu qui se rend présent au milieu de son peuple. L'Esprit-Saint, c'est la promesse. On va le trouver dans les textes qui vont venir là, prochainement, là, une force d'en haut, l'Esprit-Saint. C'est vraiment une force. C'est une manifestation, même extérieure, de puissance. Un jour, nous étions en réunion avec un groupe de jeunes, à peu près 170 jeunes, des filles et garçons. Et puis, il y avait des parents d'un de mes frères ici présents, sa mère qui était dans le groupe, qui avait assisté à une proclamation de la parole. Après la proclamation de la parole, je les ai invités à prier, spontanément, laisser parler leur cœur. Et le frère s'est levé dans l'assemblée pour proclamer une parole qu'il venait de recevoir au-dedans de l'Esprit-Saint. Mais juste un petit peu avant, on le sut après, parce que la mère nous en a parlé. La mère qui était dans l'assemblée a vu au-dessus de la tête de son garçon une langue de feu. Alors, elle s'est essuyée les yeux parce qu'elle a dit, pour moi, je m'imagine quelque chose qui n'est pas là. Elle s'est baissée la tête, puis elle s'est remontée la tête de nouveau, puis elle revoit encore la langue de feu. Puis elle entend au fond de son cœur, « Il va prophétiser. » En voici une merveille qui arrive. Elle n'a pas été voulue par les hommes, elle n'a pas été pensée d'avance, elle n'a pas été décidée par une volonté d'homme, mais bien par l'amour du Saint-Esprit. Et voilà que le frère se lève et prophétise. Ça en est des manifestations du Saint-Esprit. Il est libre de faire ça quand il veut, comme il veut. Et ça ne prend pas de cours pour voir une langue de feu, comme ça ne prend pas de cours pour donner des paroles qu'on reçoit au-dedans. Si vous remarquez, dans ce fait-là, la dame a entendu au-dedans, il va prophétiser. Et l'autre, au-dehors, prophétise. C'en est une merveille. Je veux vous faire rendre compte de ça. C'est pas facile à raconter et à expliquer, mais ça fait partie de l'agir du Saint-Esprit. Il y aura toujours des intellectuels chevronnés pour essayer de se faire croire que c'est psychologique. On n'y peut rien. Mais les fruits qui en découlent dans le cœur de ceux qui voient ou qui entendent, c'est des fruits de paix, de joie, puis de force pour mieux servir Dieu. Dieu, quand il parle, il veut faire le bien envers ceux qui écoutent. Il faut se rappeler de ces choses-là, oui?
J'ai un début de parole.
Ben, viens te mettre en avant, proche du micro en même temps. Bon, alors, je vous ai dit qu'on parlerait de l'agir du Saint-Esprit et de ses charismes. Mais, on va être assez souple pour accepter qu'il y ait un côté pratique à la parole que vous entendez.
Que le cœur de ma fille demeure dans la paix et se réjouisse en Dieu son Sauveur, car en ce jour j'ai visité ton cœur pour t'affermir dans la confiance. J'ai réchauffé ton cœur par ma parole pour que tu goûtes comme est bon le Seigneur. Sois-en certaine, à travers les souffrances, les épreuves que j'ai permises en ta vie, j'ai purifié ton cœur pour te rapprocher de mon cœur. Demeure une petite qui vit sa foi dans la fidélité au jour le jour pour être témoin de la miséricorde de Dieu. Dans la certitude que j'entends tes prières et que je te soutiens. Sachez tous bénir le Seigneur et vous réjouir en lui, car il est votre force, votre sagesse, votre consolation. Demeurez ferme dans la foi, car malgré votre petit nombre, le Seigneur veut se manifester au milieu de vous, à travers vous. pour éveiller la foi, la charité dans les cœurs. Que tous ouvrent leur cœur à l'agir de l'Esprit-Saint qui se plaît à se révéler et à se manifester aux tout-petits, à ceux qui se font des cœurs d'enfants pour aimer le Dieu vivant et le servir. Paix, joie, amour et force soient au cœur de mes fils et de mes filles assemblés en ma présence.
On pourrait vous demander l'effet que ça produit dans votre cœur à l'entente de cette parole. La parabole du semeur vient nous dire que la parole est semée. C'est comme une semence. Naturellement, une parole, elle tombe dans nos oreilles et elle arrive à nos cœurs. Quel effet produit-elle? Quand on prend une roche puis qu'on la tire dans l'eau, il se fait des vagues. Et on sait que c'est une roche, que c'est rude. Mais quand c'est une parole de l'Esprit-Saint, elle procure la paix, une joie, puis une certaine lumière. Ça, c'est des signes. Puis en même temps, elle va pousser à s'avancer dans la foi. Alors, c'est important, ça, que vous entendiez ça. Il ne s'agit pas de multiplier les paroles. Mais, quand arrive une manifestation d'esprit et de puissance, ça, ça n'est une manifestation d'esprit, de puissance, c'est que ça peut venir guérir quelqu'un à l'entente de la parole, où Dieu vient montrer qu'il est présent. Alors, quand il vient montrer qu'il est présent, c'est à travers un voile, parce que vous n'avez pas vu Dieu, mais vous avez entendu une parole, vous ne l'avez pas vue. Tout comme le Verbe de Dieu dont parle Saint Jean, il nous dit « le Verbe s'est fait chair ». Avant qu'il se fasse chair, il n'était qu'esprit. Mais en se faisant homme, il est revenu révéler Dieu le Père qui est esprit. C'est pas beau ça? Hein? Donc, une parole qui sort de la bouche de quelqu'un sous l'action de l'Esprit-Saint, vous l'entendez, mais elle est vivante. Parce qu'elle vient produire dans notre cœur la patience, l'humilité, le désir de mieux faire. Il y a tout ça qui se produit. Ce matin, je vous ai instruit sur la parole. Dans le moment, vous avez entendu une parole. Mais le Seigneur va donner à chacun ce qui lui convient. Ce n'est pas nécessaire de tout se rappeler. Mais le Seigneur va servir de la parole pour toucher un point précis dans la vie de chacun. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'inquiéter, parce qu'il y a des bouts qui m'auraient échappé. Mais c'est pour ça aussi qu'il faut être très attentif et être à l'écoute. Quand notre Seigneur il dit « prenez garde à la manière dont vous écoutez », c'est important. Si on prend l'habitude, écoutez bien ce que je vais vous dire, d'écouter ceux qui nous parlent, si on prend l'habitude d'écouter l'Église qui nous enseigne, on peut être certain qu'on va entendre au-dedans de nous l'Esprit-Saint nous parler. Mais si vous ne prenez pas l'habitude, parce que c'est un acte de charité d'écouter l'autre, si vous écoutez d'une façon nonchalante, « Oh oui, c'est correct, oh oui, correct », ça s'arrête là. Venez pas me dire que vous entendez le Saint-Esprit vous parler au fond du cœur. Non. Parce que le Seigneur n'ira pas contre sa parole. J'espère que vous comprenez bien ça. Parce qu'il y en a qui il renverse les situations à propos de ça. Si on veut avoir une certitude que Dieu nous parle ou nous inspire, prenons l'habitude d'écouter ceux qui nous entourent et qui nous parlent, d'avoir un cœur à l'écoute des autres et des misères humaines. Ça, ça dispose et prépare à entendre au-dedans le Seigneur. Ça marche? C'est des petits coins pratiques que je viens vous mettre devant vos yeux. L'espérance est cette force qui fait tout supporter. Elle est l'arme qui chasse le désespoir, le découragement, la tristesse, la morosité, l'ennui. C'est curieux, mais l'espérance est cette lumière dans les ténèbres de ce monde qui réchauffe les cœurs et les pousse à la jubilation, à la joie. Bienheureux vous qui souffrez, car vous serez consolés. Bienheureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux êtes-vous quand on proscrira votre nom comme infâme à cause de moi, car votre nom est inscrit dans les cieux et vous ne serez pas privés de votre récompense. L'espérance ne déçoit pas, car elle a Dieu pour fondement, sa parole qui est vérité. Celui-là qui espère en Dieu trouvera l'abondance du rachat. Il sera comblé. Mais la croix du Christ est le chemin de l'espérance qui débouche sur la résurrection. C'est un peu ce que je vous ai dit ce matin d'une autre façon. Celui qui refuse d'emprunter ce chemin de la croix, parce que vous le savez par expérience, on entend des gens se plaindre, critiquer, chioler, hein, ça n'a pas d'allure, ça finira jamais, etc. Celui qui refuse d'emprunter ce chemin ne peut vivre dans l'espérance. C'est bien difficile. Donc, ce qui le guette, c'est le désespoir. Celui qui renie la croix du Christ, ferme son cœur à l'espérance, cette espérance qui vient de Dieu. La croix et la résurrection sont inséparables. Je ne vais pas trop vite pour que vous ayez le temps de voir les relations qu'il y a. L'espérance est une vertu théologale. C'est un don de l'Esprit-Saint qui fructifie dans le cœur de celui qui se détache des biens de ce monde pour s'attacher au vrai bien. Vous allez me dire, je me répète, mais c'est pas pour rien. Et celui qui vit dans l'espérance ne craindra pas la mort, l'avenir, la maladie, l'épreuve, non. Car il sait que tout concourt au bien pour celui qui aime. Aujourd'hui, ce matin, nous avons parlé, pas toujours clairement, mais comme en filigrane, de l'espérance, de la foi et de la charité. Celui qui accepte de mourir, il aime. Regardez l'exemple de Jésus-Christ. C'est lui-même qui avait dit, si le grain, en parlant de lui-même, si le grain ne tombe pas en terre, s'il n'accepte pas de mourir, plutôt il reste seul. Mais s'il tombant en terre accepte de mourir, il porte beaucoup de fruits. Il parlait de lui. Il parlait en fait de la résurrection, de tout ce que ça apporterait. Et l'exercice des charismes et des dons ce sont des fruits de la résurrection. Ce sont des fruits de vie. C'est un bout que je tenais quand même à vous donner, mais je voudrais rentrer un petit peu plus loin. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit ni ne le connaît. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il est en vous. C'est une réalité surnaturelle de savoir que l'Esprit de Dieu est présent en nous, que nous sommes le temple de l'Esprit-Saint et qu'il veut agir pleinement. Et vous savez, si l'Esprit-Saint est en nous, il est là avec tous ses dons. Il ne faudrait pas venir me dire que les dons sont à part. Ce n'est pas vrai. L'Esprit-Saint est avec tous ses dons en nous. Mais les dons ne sont pas tous agissants en nous. Pour vous donner un exemple, un responsable d'un groupe a certainement le don de gouverner le groupe. Mais ce n'est pas tout le groupe qui a le don de gouverner le gouverneur, pour rire. Ce que je veux dire, c'est que à chaque chose, son temps. Dieu a mis un ordre dans la création. Il a distribué ses dons comme il l'entend et comme il veut. Mais c'est toujours en vue du bien commun, du bien de l'ensemble. Le Seigneur ne nous demande pas de courir pour avoir des dons. Il nous demande de courir pour mourir à nous-mêmes, pour que les dons, comme il veut, transparaissent à travers nous. Mais que ces dons servent à l'édification de ceux qui nous entourent. Le don de prière, qui est le don des langues, qui nous aide à prier dans notre propre langue aussi. Le don des langues est un don de prière. Et saint Paul le montre assez clairement en parlant que je peux louer sous l'action de l'Esprit-Saint, etc. Je peux rendre grâce. C'est ce don des langues où je ne comprends rien avec mon intelligence, mais où mon esprit est uni à l'Esprit de Dieu. C'est saint Paul qui dit ça. Aussi amorius, cuius oramonio, ius oriomonio, vimonio solio. Je me serais attendu que certains parmi vous, vous partiez quand j'ai parti. Mais là, je viens de chanter en langue. Je ne comprends rien à ce que je viens de chanter pour les mots. Mais ça a produit l'effet en mon âme d'une joie et d'une paix. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui savent un peu c'est quoi le don des langues? Non? Je vais avoir l'air d'une bébite rare ici. Oui, mais voyez-vous, vous avez quand même chanté avec timidité. Puis, je trouve qu'on doit rendre gloire à Dieu. Il n'y a aucune gêne. Naturellement, le don des langues, ce n'est pas rationnel. Je ne comprends rien. On est des gens qui veulent tout comprendre. Puis ce matin, je vous ai dit, tu veux-tu comprendre? Crois. Alors, l'acte de foi, je l'ai fait tout à l'heure en me mettant à chanter, c'est un acte de foi que j'ai fait. Je ne me suis pas fait pousser par le Saint-Esprit dans le dos, là. J'ai décidé que je partais en langue. Il arrive, et il est arrivé, que le Seigneur a pris, qui a possédé quelqu'un. J'ai vu ça de mes yeux à quelques reprises. Bien sûr que tu as le frimas sur le dos quand tu vois ça. Parce que le chant, il sort. Puis c'est du chant, pas d'opéra, mais un très beau chant qui te prend jusqu'au fond des tripes. Mais qui est venu par une prière. Juste une prière, puis la personne est partie en langue. Un très beau chant. Puis, on a eu la traduction, si on pourrait dire, par une autre personne après. Le don des langues, c'est mystérieux. Beaucoup disent que c'est le plus petit des dons. Je regrette, c'est pas vrai. Il n'y a aucune affaire qui est petite avec le bon Dieu. Les dons du Saint-Esprit, le Seigneur n'est jamais venu nous dire « ça, c'est le plus petit des dons, puis l'autre, c'est un grand don. » Je vais dire ça. Il a dit cependant, pour la prophétie, d'une façon très particulière, que c'est important. Parce que ça a une référence à la parole prêchée pour rendre présent Dieu au milieu de la communauté. Mais pour les autres, il n'a pas fait des distinctions. Bien sûr que les théologiens et d'autres vont dire « c'est tout par ordre dans les Écritures, c'est tout arrangé comme ça ». Mais on est des espèces de rationnels qui aiment bien tout cataloguer. Mais vous savez, on l'a appris par expérience, le don des langues ouvre la porte à l'exercice des autres dons. Par exemple, si je veux écouter attentivement Dieu me parler au fond du cœur, puis d'être protégé par toute forme de d'autres esprits ou de distractions, en attendant que Dieu me donne les premiers mots, je vais prier en langue, tout beau. Tout à l'heure, j'ai chanté à haute voix. En assemblée, pour ne pas être objet de dérangement ou de désordre, on n'a pas à se mettre à chanter, à dire plus fort, puis c'est carrément difficile, comme j'ai vu quelquefois. Ça énerve le monde, puis les gens se demandent qu'est-ce qui s'est passé là, sans aucune explication. Mais quand on part en chantant, on va le faire. Hein? Daigne recevoir, Seigneur, l'offrande de ta louange par ton Esprit Saint. Soyo Mario, ici les mineurs, ou sera mia vio, l'iminario, ici au miti d'Ali, ici les mineurs. Est-ce que quelqu'un peut me dire oui? Bon, je pense que c'est un début. C'est ça. Un début de parole. Michel, en avant aussi.
Bon. Père, nous te rendons grâce pour tous tes bienfaits. Reçois la louange de tes enfants, assemblés en ton nom, et daigne toucher les cœurs, afin que chacun porte un fruit de vie éternelle, de patience, de longanimité dans l'épreuve et de joie au milieu des épreuves du temps présent. Que notre espérance soit sans cesse en ton nom, Jésus-Christ.
Louez, bénissez le Seigneur, chantez-le avec des cœurs joyeux, pleins d'allégresse, car il est vivant au milieu de vous, le roi de l'univers, le Seigneur de la gloire, Jésus ressuscité d'entre les morts. Louez-le, bénissez-le, rendez-lui grâce, car il s'est manifesté à chacune de vos vies. Il a manifesté son amour infini et veut passer par vous pour se faire connaître au monde. soyez tous dans la joie de vivre dans l'espérance des biens éternels, cette espérance qui est à l'œuvre dans votre vie par l'opération du Saint-Esprit. Parole de votre Seigneur qui vous aime et qui vous veut à son écoute pour le glorifier, lui rendre grâce sans cesse.
Ça, on appelle ça la pratique de l'exercice des dons. Dans cela aussi, il y a l'exercice de l'acte de foi. Parce que vous savez, le texte, je ne sais pas, je ne l'ai pas proche, là, votre texte que vous m'avez apporté, que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude, dans votre acte de foi, la joie et la paix, afin que l'espérance surabonde en vous par la vertu de l'Esprit-Saint. Cet acte de foi nous conduit à la joie et à la paix de l'Esprit-Saint. Mais il n'y a pas de joie et de paix dans l'Esprit-Saint sans l'acceptation amoureuse de la croix. Si vous pouvez vous rappeler de ça, c'est pas long, mais ça veut tout dire. Je vous rappelle que si on veut transformer le monde, que si on veut aider l'Église, que si on veut qu'il y ait des vraies vocations, parce qu'hélas, des vocations dans le pays et dans le Québec, il n'y en a pratiquement plus. Il y en a dans d'autres pays pauvres, mais pas au Québec. L'absence de beaucoup de prêtres, l'absence des témoins de la parole, qui ne craignent pas de la proclamer sur tous les toits, alors qu'on voit toutes les sortes de gourous à la télévision puis dans les journaux dire n'importe quoi, il y a une espèce de silence chez ceux qui devraient parler, chez ceux qui devraient trompeter. Dans le prophète Ézéchiel, à un endroit, le Seigneur est venu dire au prophète de monter sur la falaise, sur le haut, de prendre la corne, et dès qu'il voyait l'ennemi, de sonner. Et l'explication qui a été donnée, c'était que dès qu'on voit l'ennemi, qu'on ne craigne pas de répondre à l'Esprit-Saint en proclamant la parole. L'Église a besoin de prophètes, d'hommes qui tranchent, qui sont prêts à perdre leur vie pour la proclamer, cette parole. Et là, je rejoins ce que je vous ai dit au début. Perdre sa vie, c'est un mot simple, mais qui dit tout. D'accepter de perdre sa vie pour gagner celle du Christ. Cela suppose qu'on est prêt à tous les sacrifices, puis d'être blâmé pour avoir dit la vérité et de s'être élevé pour proclamer la justice et l'amour. Regardez comme faut présentement, soit à télévision ou ailleurs, et venez me dire qu'on rencontre des témoins de la parole. Non. On rencontre des témoins de n'importe quoi. Les sexologues, féminins comme masculins, mettaient tout le paquet sur n'importe quoi. Mais on fait bien attention de faire venir quelqu'un qui viendrait nous déranger. Ce qui suppose, de la part de chacun de nous, une grande générosité dans la prière pour supplier, implorer le cœur de Dieu, qu'il prenne son peuple en pitié et qu'il vienne à son secours pour que se lèvent dans son peuple des hommes et des femmes audacieux pour la gloire de son nom puis le bien de toute l'Église. puis d'avoir le souci de prier pour les vocations. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui refusent la vocation, c'est à cause du sacrifice que cela demande de toute sa personne. Il y a des gens qui sont bien gentils, qui sont aimables, qui sont prêts à faire des aumônes, mais viens pas toucher à ma vie. Voyez-vous l'idée? C'est grave dans la société, c'est ça qu'on rencontre. Des gens qui ont un grand cœur, qui sont bons, qui sont prêts à rendre service, mais viens pas me demander ma vie pour la donner totalement. Alors que le Seigneur fait des appels pressants. Nous autres, on en est témoins. Il y a des gens qui disent, comme le jeune homme riche de l'Évangile, c'est en aller triste parce qu'il y avait des grands biens. Alors, je vous souhaite de vous dégager le plus possible de vos biens pour que Dieu prenne place dans votre vie. Amen. Je veux vous remercier d'avoir été attentif le temps que je vous ai parlé. Je souhaite que le Seigneur fasse croître cette parole. On s'aime, mais c'est lui qui fait croître. Alors je supplie le Seigneur que ça puisse croître dans tous vos cœurs.
Amen.
Amen. Ah. Amen.